France Culture.
France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Il était une fois New York, la ville. Pascal Dupont s'y est enfoncé fin des années 70 et nous en donnait, plume à la main, le journal de voyage, ou plutôt le récit intérieur, monologué, que les toutes nouvelles nuits magnétiques de France Culture ont laissé doucement défiler à l'image des tableaux des épopées médiévales. New York, redoublée de ses tours jumelles, ses métros, rues, gangs, ghettos, acides. Pascal Dupont racontait d'abord, dans un premier épisode, le New York qui l'effraie, celui de la grande peur, peur médiévale, peur urbaine. Mais la nuit de la raison s'obscurcit cette fois encore. C'est la nuit de la misère, la nuit de la folie, qui, à New York, possède son quartier, le Bronx. Le fil, c'est une Ariane qui nous le donne, juste avant les premiers seuils labyrinthiques, à la suite d'Anne Coquelin la dernière fois, Martine Barra, cinéaste.
New York Moyen Âge, un journal de Pascal Dupont, mis en page par Bruno Sourcil. Ce soir, histoire de la folie. New York, chaque jour, écrit une nouvelle page du conte de la folie ordinaire. La raison économique d'une société hyper-rationaliste engendre les cordes de fous en même temps qu'elle les nie. Les fous crient, gesticulent. 300 d'entre eux vivent sur Upper Broadway en toute liberté et sans surveillance, au milieu de la population, parce que les hôpitaux psychiatriques n'ont plus de lits pour les accueillir et qu'il faut favoriser les expériences sociales. Broadway, mais aussi Lower East Side, vers la 13e rue et la 3e avenue. Les égarés de la société, les exclus du bonheur made in USA, croisent 24 heures sur 24, traînant leur désespoir d'un pas mal accordé. 14e rue, un Lénine noir de peau et d'alcool hurle à la mort. Plus tard, une vieille femme, cheveux mauves et lunettes d'écaille, monte dans le bus en poussant un grand cri. Elle s'assied, 3 secondes passent, et elle éternue discrètement avant de se tourner vers les autres voyageurs en souriant. Personne ne bronche. Un temps, puis elle repart dans une cascade de petits cris spasmodiques. Soir, concert des Jams au CBGB's. un groom punk, étudiante grassouillette, junkies, photographe à la mode. Quelques chevelures orange ou verte, électriques. La sélection se fait par exclusion des genres, musicalement. Musique inaudible, bousculade énorme. Le barman fume un joint. Une fille accrochée au bar me demande « Do I really look like a furniture ?» Est-ce que j'ai vraiment l'air d'un meuble ? Dans les toilettes, une inscription « Support mental health or I'll kill you ». Aidez la politique de santé mentale ou je vous tue. Les Jams, groupe punk anglais. In our city there's a thousand things I want to say to you. But whenever I approach you, you make me look a fool. I want to say, I want to tell you about the young ideas, about your dynamic affairs. Idea. And man, yes, and now you said you're fit. Retour en métro. Sur le quai de la 42e rue, à la correspondance entre le train express et le local, un jeune type, blouson de cuir à tête de mort, esquive des mouvements de karaté en faisant claquer ses doigts à toute vitesse comme une danseuse de fandango. Assise sur un banc 10 mètres plus loin, une vieille femme délire, seule, sur le péril rouge et sur le prix scandaleux d'une fucking bottle of milk. À l'angle de West Broadway et de Broome Street, un mur est peint en noir. Dessus, une annonce, comme une coupure de presse déchirée d'un journal et agrandie. Titre, artiste en crise. Sous-titre, à 32 ans et à la croisée des chemins. Début de l'article, l'artiste Horacio Alger a déclaré aujourd'hui qu'il était à un point critique de sa vie. Monsieur Alger s'est dit être sans aucune motivation et incapable de prendre des décisions. Il interroge la signification de sa vie et cherche de nouvelles réponses. Un mois plus tard, au même endroit. Titre, un artiste souffre. Horacio Alger a annoncé aujourd'hui qu'une douleur intense à l'estomac l'avait contraint à rechercher une aide médicale. « Mon docteur m'a ausculté », a-t-il notamment déclaré, pour chercher d'en trouver la cause. La douleur est effrayante. Une source proche de M. Alger a affirmé « N'utilisez pas mon nom, mais je peux vous dire que Horacio a une histoire de maladie psychosomatique. Il est déprimé par beaucoup de choses, sa carrière, l'argent et les relations amoureuses. » À New York, le désespoir est esthétique. I understand that time is running out. 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 Running out as fast as niggas run from the man. Time is running out on our natural habits. Time is running out on lifeless serpents reigning over a living kingdom. Time is running out of talks, marches, tunes, chants, and all kinds of prayers. Time is running out of time. Changing, from brown to black. Time is running out on bullshit changes. Running out.
push fine or drive bars. Like a murderer from the scene of a crime. Like a little roach from DDT running out like big niggas.
Répondant à la misère morale, la misère des lieux. Face à la prestigieuse vitrine de Manhattan, les banlieues n'en apparaissent que plus sombres. Brooklyn. Mis à part le quartier de Brooklyn Heights, une banlieue triste. Métro, direction Flatbush Avenue. L'avenue est aussi laide que le nom qu'elle porte. Du train à ciel ouvert, l'alignement des cottages le long de la voie. Briques et bois. Sur la poutrelle d'un pont, une inscription en lettres dégoulinantes. Julio 161, The Stone Killers. Ocean Avenue, l'avenue de l'océan se déroule sur des kilomètres en droite ligne. Tout au fond, Manhattan persiste à surgir des brumes. Rue, maison, store. Maison, store, garage. Garage, store, parking. Le tout très cheap. Prise unique déplacée dans une ville de western. Guirlande d'ampoules mortes suspendues sur les boulevards. Image de fête oubliée. C'est la zone entre le Far West et le No Man's Land urbain. À la tête du train, on voit défiler les traverses de bois, rougies par la rouille. L'herbe pousse entre les voies. Voyage au début de ce siècle, dans un New York prolétaire. Jack London et les Railroad Tramps. Terrain vague. Terrain vaguement balisé pour le baseball. Succession de maisonnettes, hangars sans fenêtres, entrepôts borgnes. Slums. Quelques cottages coloniaux avec véranda sur le jardin, meubles en rotin, rocking chair et pussycat. Toutes les autres maisons cherchent à ressembler à celles du garde-barrière. Brooklyn, en définitive, c'est la remise gigantesque d'un magasin spécialisé dans les décors de films historiques. Rien n'a bougé, tout s'est tu, la vie n'est plus là. Tout au bout, Coney Island, de nouveau. Ciel gris, des goélands ventrus repus, déambulent sur les parkings vides, comme les bourgeois du dimanche. Tout le long de la plage, des montagnes russes en pagaille, balançoires géantes et rouillées, tas de ferrailles découpant le vide de l'espace.
Je marche entre les petites maisons de briques, couleur de sang séché. Elles sont plus jeunes que les maisons d'Europe, mais leur fragilité les fait paraître bien plus vieilles. Je vois au loin l'Empire State Building ou le Chrysler Building, qui pointe vainement vers le ciel, et je songe soudain que New York est sur le point d'acquérir une histoire et qu'il a déjà ses ruines. C'en est assez pour orner d'un peu de douceur la ville la plus rude du monde. Extrait de Situation 3 de Jean-Paul Sartre, 1946, lu par Thomas Woods.
Friction par le groupe Télévision et chanté par Tom Verlaine.
Thank you. Söderqvist.
L'autre côté de Harlem River, le Bronx, ghetto au-delà du ghetto, enfer après le purgatoire. À la une des journaux, compte rendu de la destruction quotidienne du Bronx. Dans la nuit du 17, quelqu'un a mis le feu à un immeuble de 7 étages. Incendie parmi mille, qui fait pleuvoir des flammèches et des cendres sur la ville. La police, dit l'article, enquête et parle des origines suspectes du désastre. Les assurances vont payer. Le propriétaire s'est refusé à toute déclaration. À New York, moins qu'ailleurs, on a beau n'y voir que du feu, il n'y a pas de fumée sans feu. Pompéi et Moscou, Paris brûle-t-il, vertige de l'apocalypse. Dans le Bronx aussi, il y a un zoo. Mais qui va au zoo du Bronx?
Le Bronx est un des...
Martine Barra.
Un des boroughs, tu as Queens, tu as Brooklyn, tu as Manhattan... Tu as Staten Island et tu as les Bronx. Et dans les Bronx, il y a les South Bronx. Parce que le reste du Bronx, c'est des quartiers riches. Enfin, pas riches, mais middle class américains. Par exemple, le North Bronx, tu as... Tous les gens qui travaillent à Manhattan, qui vivent dans le North Bronx, c'est pas du tout la misère. Le South Bronx, c'est un îlot à part.
C'est pas très joli comme nom, Bronx, South Bronx. Est-ce que le quartier ressemble à ça aussi?
Ben, ça a été un quartier qui a été très très riche jusque dans les années 50, qui était un quartier juif, de gens middle class, aisés, qui avaient des petites maisons avec des petits jardins. On en voit encore des résidus. Il y avait beaucoup beaucoup de synagogues. Chaque fois que je passe, je suis étonnée par le nombre de synagogues dans les South Bronx. Il y a encore des pancartes ou des morceaux d'église qui sont là. Il y en a beaucoup qui servent comme centre de détox. Centre de détox, c'est là les endroits où on désintoxique les gens contre l'héroïne, avec de la méthadone.
Et est-ce qu'il reste beaucoup d'individus de cette population juive qui était là à l'origine?
Ah ben non, ils ont tous partis. Ils sont tous partis, ils se sont tous taillés. Dans les années 50, les Portoricains ont commencé à arriver avec la migration des Portoricains. Les Noirs qui ont été poussés de Manhattan vers les Bronx. Et tous les Blancs sont partis. On rencontre très très peu de Blancs. Dans les South Bronx, tu trouves quelques bouchers. J'ai rencontré quelques bouchers. Quand j'ai filmé pour la télévision allemande, je suis tombée sur un boucher qui m'a dit « Les South Bronx, c'est Berlin après la guerre. » C'est une ville après la guerre. On a l'impression que tout a été bombardé, brûlé, qu'il ne reste plus rien. Sur des kilomètres, tu vois des... Chaque fois que j'y vais, je suis étonnée par le nombre d'immeubles qui sont brûlés. C'est le feu en permanence.
Quel était ton sentiment la première fois que tu as été là-bas? La toute première fois?
J'ai été fascinée par la musique. Il y a de la musique partout. Dans la détresse totale, et dans la misère totale, tu entends tout le temps des congos qui se répètent. J'y étais en été, alors tous les gens sont dans la rue, ils jouent. Et on entend les tambours qui se répercutent, les sons qui se mélangent dans l'air, comme ça. C'est assez incroyable. Et maintenant encore, ça m'étonne, cette musique. Alors qu'il n'y a plus rien qui tienne debout, il y a encore des gens qui font de la musique. Des gens de tous les âges qui viennent des îles, qui viennent de San Domingo. Dimanche a été une fête de famille et il y avait des très très vieux qui jouaient du bongo. Ils étaient, je sais pas, il y en avait 7 ou 8, il y avait des guitares électriques, ils étaient tous là et ils jouaient. Des gens très âgés.
Sinon la rue est occupée par qui? Les jeunes, j'imagine?
Par les jeunes, les enfants, les drogués, les alcooliques. Et les mères de famille qui se dépêchent de rentrer chez elles pour pas être attaquées. Et des milliers d'enfants, des milliers d'enfants. Ils sont tous dans la rue et les vieillards qui crèvent et les hommes qui sont là en grappe à attendre la fin de leur vie. Et qui parlent, hier j'ai passé la journée pour faire des photos parce que je suis en train de préparer un livre. Il y avait des vieux qui racontaient leurs souvenirs de guerre au Vietnam, en Allemagne. Quand je dis que je suis française et que je demande de faire des photos... Ils commencent à me raconter leur voyage. Ils ont tous servi dans l'armée américaine. Ils ont été au Vietnam et ils parlent de tout ça. Ils étaient sofa complètement détruit devant une maison tout à fait brûlée. Ils avaient 5 ou 6 chiens. Ils étaient là et ils discutaient de leur passé. Ils étaient alcooliques et drogués.
Ça, c'est une salsa portoricaine.
À Harlem pendant 4 ans avec un groupe d'enfants, avec la maman. J'enseignais la vidéo et la musique avec un groupe de musiciens de jazz et on travaillait avec un groupe d'enfants dans un théâtre que la maman nous avait donné. La maman est une femme noire extraordinaire qui possède plusieurs théâtres off-Broadway. Et quand je lui ai proposé de travailler avec les enfants noirs et portoricains, elle nous a donné un immeuble. J'étais avec ce groupe de musiciens de Saint-Louis qui font du jazz et on a enseigné la vidéo et la musique dans un grand ensemble. C'est là que j'ai travaillé pendant 4 ans. Alors j'ai cherché un moyen de communiquer avec certaines personnes dans les South Bronx et j'ai rencontré par hasard un professeur portoricain qui avait été renvoyé et qui avait gardé des contacts avec ses élèves. Il m'a présenté 2 mecs, dont l'un qui était le président des Ghetto Brothers, qui est un gang très important. Alors il m'a invité, ça a fait boule de neige, j'en ai rencontré un autre. Et voilà, ça a fait boule de neige.
Et maintenant, tu connais bien un gang, qui sont les Roman Kings.
Je connais 2 gangs très bien, c'est-à-dire que les Roman Kings, c'était les Savage Nomades autrefois. Mais comme les Savage Nomades ont tous été en prison, ceux qui sont sortis de prison ont reformé un gang à qui ils ont donné le nom des Roman Kings. Les gangs, ça a toujours existé dans les ghettos, il y en a depuis... Si tu parles avec un homme noir de 60 ans, il me dit « moi, je me rappelle des gangs ». C'est un phénomène qui n'est pas nouveau dans les ghettos. Ça part, si tu veux, un gang, c'est avant tout, c'est un groupe d'enfants qui restent ensemble pour se protéger contre l'ennemi. On ne sort pas tout seul quand on vit dans ces quartiers-là. On sort avec un groupe d'amis, toujours. Tu ne rencontres jamais un enfant tout seul qui se promène. Il est toujours avec 2, 3, 4 enfants.
L'ennemi, c'est qui? C'est éventuellement l'autre gang? C'est qui?
C'est celui qui peut vous prendre votre porte-monnaie pour aller acheter de la drogue. C'est celui qui peut vous attaquer pour aller acheter une bouteille de brandy.
Et les gangs se forment essentiellement dans les prisons?
Oui, généralement, ils se forment dans les prisons. Et puis après, c'est comme des molécules qui partent et qui forment d'autres molécules. Tout le South Bronx est quadrillé de gangs. Ils ont chacun un territoire qui est bien défini. Et à chaque gang appartient un territoire. Et tu peux pas aller d'un territoire à un autre, sinon tu es attaqué par le gang. Oui, il y en a des milliers. Ils sont organisés par division, avec un président, un vice-président, un ministre de guerre, un sous-ministre de guerre. Et puis 13 par division. Mais les divisions sont unlimited. Et il y en a dans tous les quartiers de New York, en fait, dans tous les ghettos. C'est-à-dire, c'est pas propre au South Bronx. Si tu vas à Brooklyn, c'est... pire. D'ailleurs, tous ces derniers temps, il y avait des articles dans les journaux où on racontait ce qui se passait avec les gangs qui détruisent et fauchent tout ce qui reste dans les maisons, comme la tuyauterie, l'électricité, pour revendre et pour essayer de tirer de l'argent, qui font fuir les gens des maisons.
vous avez été accepté par le gang que vous connaissez, par exemple les Roman Kings?
Il a fallu beaucoup de temps. Beaucoup de temps. On m'a fait passer beaucoup de tests. Mais je les amusais parce qu'ils sentaient que je pouvais leur apprendre quelque chose, c'est-à-dire manier la vidéo, s'en servir, devenir caméraman, devenir soundman, parce que j'ai jamais amené personne de l'extérieur pour travailler avec moi. Donc ils ont travaillé avec la vidéo avec moi. Donc ils apprenaient quelque chose. Leur enthousiasme de se servir de cette machine, de se voir immédiatement dans la télévision, c'est fascinant. C'est des gens qui n'ont jamais eu de photo d'eux-mêmes, ou seulement des photos de prison. Pas de passeport, les seules les photos qu'ils m'ont données d'eux, c'est toujours des cartes de prison. Donc déjà, de se voir dans la télévision, ça les a beaucoup excités. Et puis en même temps, ils ont senti qu'ils pouvaient m'apprendre quelque chose, parce que depuis que je suis arrivée à New York, c'est-à-dire il y a 9 ans, fascinée par le langage noir, qui est très très différent du langage blanc. Et il m'apprenait tout le temps des expressions, c'est-à-dire le langage de la rue est très très différent aussi. Donc j'avais un petit livre et j'écrivais tous les jours des phrases qu'il m'apprenait. Alors ils étaient contents parce que je leur apprenais quelque chose, ils m'apprenaient quelque chose, il y avait un échange. Et puis ils m'ont testé plusieurs fois, ils m'ont demandé de leur laisser le matériel pour faire un film porno. Donc, je me suis dit, après tout, les bourgeois font tous des films porno avec la vidéo, pourquoi pas leur laisser le matériel? Alors j'ai pris le risque. J'étais un peu inquiète, mais j'ai pris le risque. Et quand je suis revenue le lendemain, le film porno était fait et tout le monde était content et on a continué à travailler. J'ai eu des tests comme ça, à de nombreuses reprises. Ils sont venus à la maison plusieurs fois, regarder les bandes, amener les copains. Si tu veux, j'allais chez eux, mais ils venaient chez moi aussi. Ce qui me posait beaucoup de problèmes avec les gens de l'immeuble où j'habite, dans la 23e. Qu'est-ce que c'est que cette horde de voyous qui débarquent chez Martine Barra? Ils vont vous violer, ils vont vous voler. Enfin, j'avais des conseils de tous les gens de palier. Et puis bon, ben alors ils sont venus ici, j'ai été chez eux.
Est-ce qu'au tout début, vous avez eu peur?
Non, moi j'ai pas senti ça du tout. Si tu veux, si tu décides de travailler comme ça, j'avais commencé mon film Harlem et je voulais continuer, donc il n'était pas question de penser à la peur. La peur, j'avais rien à perdre. Je refuse l'idée de peur, on vit pas à New York si on accepte la peur. On va vivre à la campagne, je vous dis, J'ai pas le temps de me poser cette question, je veux pas me la poser. Et puis je me suis dit, bon, peut-être quelquefois je me suis dit, tiens, le matériel avec tous ces drogués autour de moi, qu'est-ce que je fabrique là dans ce terrain vague avec les gosses? Mais enfin, non. Et je crois qu'on envoie aux gens, si tu veux, les vibrations qu'on ressent. Les gens sentent si on a peur ou si on n'a pas peur. Ils m'ont dit après, ils m'appelaient Crazy Lady, ça c'est mon nom. Ça les amuse que je débarque toute seule, que j'ai pas peur justement. Ça les étonne. Maintenant, on en parle et on rigole. Ils trouvent que je suis intelligente parce que je mets toujours... La dernière fois, la dernière bande de vidéos que j'ai fait avec eux, la semaine dernière, ils m'ont dit « Toi, t'es intelligente. » Alors, j'ai dit « Pourquoi ?» Alors, ils m'ont dit « C'est parce que tu mets l'argent dans tes chaussettes comme les gangsters. » Bon, tu vois, des choses comme ça, je te parle de ça parce que c'était la semaine dernière, mais ça arrive très souvent. Si tu veux ça, c'est des trucs de la rue. Tu vois, je me promène jamais seule, tu vois, ils viennent me chercher au métro, je suis pas Jeanne d'Arc, je me promène pas toute seule, blanche, dans les South Bronx, sûrement pas. D'abord parce que si tu as la peau blanche et que tu te promènes dans les South Bronx où tous les gens sont noirs et portoricains, tu risques d'avoir un porte-monnaie, donc tu risques d'être la première victime. Les drogués, ils cherchent 5 dollars, ils cherchent 2 dollars, ils cherchent 3 dollars, ils cherchent n'importe qui, n'importe quoi, tu vois. Donc tu peux pas te permettre de te promener seule. Ils viennent me chercher au métro, ils me raccompagnent, je marche jamais seule.
I got busted just around Christmas time. His brother used to go and come. Jive, nigga. She turned me in, man. I was going with her and living with another girl. So some way, you know, the girl, she said, Carmen was smarter.
Charlie, and, president des Ghetto Brothers.
So Carmen set it up so that she would know exactly where I live. And then all she did was call up the armed forces police and tell them, you looking for Carlos Suarez? We're looking for Carlos Suarez. We know, I know where he's at. And early in the morning, I was laying down just, oh, baby, and all of a sudden, bah! The door caved in and my boy ran to the door and they told him, you move, boy, blow your fucking head. And then they said, open it, bah! No, they kicked the door of the bedroom in. We had them little glasses, the whole shit fell.
J'étais tombé à l'époque de Noël. Cette fille avec qui je sortais, elle s'appelait Connie, salope de négresse. Elle m'a donné, mec. Je sortais avec elle et je vivais avec une autre fille. Alors la fille Carmen était plus futée que cette autre nana. et Connie s'est arrangée pour savoir exactement où je crachais. Et après tout, ce qu'elle a eu à faire a été d'appeler la police et de leur dire « Vous cherchez Carlos? Vous voulez Carlos? Je sais où il est. Je sais où il se trouve. » Un matin tôt, j'étais allongé et tout d'un coup, boum boum, ma nana est allée à la porte, l'a ouverte, ils lui ont dit « Tu bouges, on te fait éclater ta sale gueule. » Puis on dit « Ouvre cette porte » en cognant contre la porte de la chambre. Je me suis levé, j'ai enfilé mon caleçon et j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Alors ils sont entrés avec des gros pistolets. Ils m'ont dit « Bouge, karaté Charlie. » Puis je leur ai dit « Vous m'avez eu. » Ils m'ont attrapé par la culotte et m'ont jeté contre le mur. Puis ils ont sorti un papier qu'ils ont commencé à lire. Où j'étais devenu sergent, comme j'étais monté en grade, etc., je m'étais fait reprendre.
Mais comment tu as pu organiser tous les gangs? Comment as-tu fait pour les rassembler?
Ils avaient tué Benji, c'était, je ne sais plus quand, les gangs marchaient dans la rue, ils s'étaient avancés, il a dit, et les mecs, pourquoi va-t-on se battre encore? Et un enculé a eu peur et a enroulé sa ceinture autour de son poing. Et quand ils l'ont vu faire ça, quelqu'un a gueulé, faites gaffe, c'est un autre gang. Ils l'ont cogné avec des matraques et des machettes. J'ai toujours son blouson qui penche chez moi sur le mur avec le nom du club sur le dos. On était en train d'essayer de réconcilier tout le monde, les Skulls et les Spades. Ils ne s'arrêtaient pas de se battre entre eux et Bungie est descendu pour leur dire « Écoutez les mecs, on est des frères, faisons la paix au moment. » Mais quand on est descendu leur dire ça, les deux gangs sont rentrés dedans avec des flingues. Et c'est là qu'on a vu Benji allongé par terre. Il avait des plaies sur le visage, mais on ne pouvait pas voir son dos, qui avait été traversé par des couteaux et des machettes. Il avait complètement trucidé. Ses yeux étaient fermés. Il était sans doute mort. Mais le rapport de police a dit qu'il était mort pendant le transport à l'hôpital. J'ai couru au milieu du Prospect Avenue jusqu'à l'hosto. On était potes, on partageait le même appartement, on l'avait descendu. À l'hosto, on l'avait amené, il y avait 5 flics devant l'entrée, je les ai attaqués. Et j'étais presque entré quand un gros flic m'a frappé par derrière. Je suis tombé et j'étais prêt à l'allumer. À ce moment-là, des mecs de Young Lords sont arrivés et m'ont dit « On va voir s'il est OK, t'affole pas. Tu vas te faire sauter le crâne par les flics si tu continues. » Je leur ai dit que je n'avais rien à foutre et que je voulais juste voir mon pote. Et puis j'avais vu passer une nana et je lui ai dit « Viens voir ici, il y a un type là-dedans qui s'appelle Benji, Cornell Benjamin. Il est juste entré à l'instant. Tu n'as qu'à dire que tu es sa petite sœur et tu veux savoir comment il va. » Alors, elle y est allée. La police se tenait devant avec leurs bâtons et leurs machins, mais elle est entrée. Et puis elle est ressortie en hurlant « Benji est mort ». Je suis retourné au club où Benji avait laissé un gros fusil pris aux Roman Kings. Je l'ai attrapé, je l'ai enroulé dans un bout de drap et je suis ressorti dans la rue. Je me disais, je vais les trouver ces enculés et je vais les aligner tous. Mais je n'ai rien trouvé et j'ai dû ranger mon frein. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir. Je me suis dit que si je descendais un de leurs mecs, ils allaient en descendre un autre chez moi. Et puis moi, j'allais en buter une autre et on allait comme ça s'exterminer. Et ça, bon Dieu, il fallait que je l'arrête. Le lendemain, les Hells Angels de Saint Mark sont descendus et m'ont dit « Tu veux le petit taré qui a fait le coup ?» Les Bachelors sont venus aussi avec des carabines. Ils m'ont dit « Écoute, mec, on est avec toi. On va attraper les mecs qui ont tué Benji. » Tous les gangs se sont pointés. Tous, les Skulls, les Spades, ceux qui avaient fait le coup portaient des queues de cheval. Ils se sont tous rasés la tête et ont effacé les inscriptions sur leurs blousons. Ils avaient peur qu'on les retrouve à l'école. Ils avaient si peur qu'ils ne savaient pas quoi faire. Alors ils ont enlevé leur couleur et ont jeté leur insigne. Et le lendemain, un mec s'est pointé dans une belle bagnole et m'a dit « On a attrapé le président et le vice-président. » Je lui ai dit sans blague et il m'a dit « Ouais. » J'ai pris un 38 et j'ai dit « Allons les voir. » On est allé les voir, les mecs étaient assis contre un mur. J'ai marché vers eux. J'ai sorti le pistolet et j'ai dit « C'est vous qui avez tué Benji ?» Ils m'ont dit « Non, on n'a rien à voir avec ça. On n'était même pas dans le coup. » J'ai dit « Maintenant à mon tour, je vais vous tuer. » J'ai pointé le revolver sur eux. Ils ont commencé à avoir les chocottes. Et puis j'ai dit « Je ne vais pas vous descendre. Mais faites que ça n'arrive plus jamais. Soyons amis. » Et je suis sorti en leur disant, en fait, On devrait s'unir et se battre contre tous ceux qui veulent nous éliminer. À l'époque, c'était la police.
They took him off and they threw him away. And then the next morning after Benji was dead, a dude showed up in a nice fixed up car. He was from one of the gangs, I forgot. They used to always dress nice. I think they were some kind of royal playboys or something. But they had, yeah, they used to wear them old fashioned clothes, you know, party and all that. And he showed up and they went upstairs. And he said, "We got the president, Charlie, and the vice president." I said, "You do?" He said, "Yeah." So I put a 38 in my hand, and I said, "Let's go see him." I put it in here. The javelins. That was that. And we went down there, and the dude was sitting against the wall, and his boy was sitting against the wall. And I walked in, I took the pistol out, and I said, "Man, your boys killed Benji. And they said, "No. We had nothing to do with it. We wasn't there." And I said, "Now I'm going to kill you." And I cocked it like this and I looked at them. And they started crying, you know, having fits and shit. And then I said, "I'm not going to kill you. I said, no. Just don't let it happen again. I said, let's be friends." And I walked away. And I know, then I said, "As a matter of fact, what we should do is just get ourselves together."
Stevie Wonder, Village Ghetto Land.
Down my dead end street, would you like to come with me to Village Ghetto Land? See the people lock their doors while robbers laugh and steal. Beggars watch and eat their meals from garbage glass is everywhere. It's a bloody scene. Killing plagues the citizens as they own police. Children play with rusted cars. Swords cover their hands. Politicians laugh and drink, drunk to all demands. Buying dog food now. Starvation roams the street. Babies die before they're born, infected by the greed. Now some folks say that we should be glad for what we have. Tell me, would you be happy? Village Ghetto Land.
Dans le South Bronx, avec Martin Barra.
Trois gangs, mais je peux parler des Roman Kings. Ils sont organisés par division de 13. 13, c'est parce que c'est un chiffre qui porte bonheur. Il y a un président, un vice-président, un ministre de la guerre. Chez les filles, c'est la même chose. Les gangs sont... chez les Roman Kings, autrefois, il y a 3 ans, ça a commencé. Les gangs de filles se sont séparés des gangs de garçons. Elles dépendent d'eux, mais pour les grandes décisions, c'est-à-dire les grandes bagarres entre les gangs. Mais pour les décisions internes, c'est la... Il y a une présidente, une vice-présidente et un ministre de guerre aussi chez les femmes.
Quelles sont les règles importantes à l'intérieur du groupe ?
Les règles importantes chez les femmes, elles n'ont pas le droit de sortir avec des mecs qui n'appartiennent pas au gang. Si elles prennent le risque, si elles ont des ennuis, le gang des garçons ne les protégera pas, ne s'occupera pas d'elles. Donc elles sont plus ou moins liées à ce gang, tu vois. Elles sont obligées d'être avec des Roman Kings. Les règles chez les garçons, la première règle, c'est on ne dénonce jamais un copain. On va plutôt en prison, mais on ne dénonce pas son copain. On ne fait pas prendre des risques au gang, c'est-à-dire, comme tu as vu dans la bande tout à l'heure, le jugement de ce petit garçon qui est jugé parce qu'il a attaqué une vieille dame. Non pas parce qu'il a attaqué une vieille dame, mais qu'il a attaqué une vieille dame devant le club. Le club, c'est la cave dans laquelle le gang se retrouve. Et il a attaqué la vieille dame, donc... Il est jugé parce qu'il a attaqué la vieille dame et qu'il risque de faire aller tout le monde en prison parce que la police risque de venir faire sa recherche et fout tout le monde en taule. Alors là, on ne fait pas ça, on fait pas prendre les risques aux autres. Il y a une énorme fidélité dans l'amitié qui me surprend beaucoup. J'ai vu beaucoup d'enfants qui ont été en prison pour ne pas dénoncer le copain. Ça, c'est la règle essentielle. On se protège les uns les autres, on attaque ensemble. C'est une armée, oui. On prend les décisions ensemble et le président est désigné président parce qu'il s'est battu contre tous les membres du gang et c'est le plus fort physiquement. On est président parce qu'on est le plus fort, on est vice-président parce qu'on arrive après, on est ministre de la guerre parce qu'on est intelligent et qu'on sait se battre. Alors on fait l'entraînement avec les bottes, ils appellent ça combat boots. Ils ont des énormes bottes noires très lourdes que j'ai essayé de mettre un jour, je ne pouvais pas marcher plus de 100 mètres tellement c'était fatigant. Et ils s'entraînent régulièrement pour se battre. Et chez les filles, bon ben, si les filles ont des ennuis, elles appellent les Roman Queens, elles appellent les Roman Kings à la rescousse et elles se battent. Elles se battent aussi bien que les hommes. Il y a des grandes bagarres entre gangs tout le temps. Ils vivent dans un rêve, le South Bronx leur appartient, ils rêvent. Je ne sais pas si je t'ai fait lire cette lettre du président de la guerre, des Roman Kings, et il disait... quand j'étais dans les Bronx, là il a 20 ans de tôle, et il me dit quand j'étais dans les Bronx, j'étais libre, je sillonnais mon territoire, j'établissais la paix. Il protège aussi les gens du quartier. Il y a certains gangs qui dérangent les gens du quartier, mais dans le quartier où je travaille, les gens préfèrent avoir le gang parce qu'ils les protègent, tu vois. Ils font une espèce de police interne. Si par exemple il y a quelqu'un qui est attaqué, ils vont attraper la personne qui a attaqué, tu vois, ils servent de police intérieure. C'est eux qui font les règlements de compte. Alors on les appelle à la rescousse, les gens de l'immeuble ou les gens de leur territoire. Ils se sentent protégés par les gangs, parce qu'à l'origine, je crois que ce qui a démarré les gangs, c'est que les gosses devaient se protéger contre tout ce qui peut se passer. Si tu veux, on est dans une bagarre perpétuelle, c'est un temps de guerre. Les South Bronx, les gens qui habitent le quartier où je travaille, ils appellent ça la Corée. La Corée, dans leur tête, c'est un endroit où il y a la guerre.
When you're a jet, all the way from your first cigarette to your last dying day. When you're a jet, let them do what they can. You've got brothers around, you're a family man. You're never alone, you're never disconnected. You're home with your own, when company's expected, you're well protected. Then you are set with a capital J, which you'll never forget till they cart you away. When you're a jet, you stay a jet.
Now I know Tony. Parle de guerre, le code de l'honneur, d'organisation un peu paramilitaire, mais est-ce qu'ils prennent aussi le temps de vivre, de faire la fête, de s'aimer par exemple?
Il n'y a que ça qui compte, c'est la fête, c'est trouver de quoi faire la fête. La fête est perpétuelle, quand on n'est pas mort ou quand on n'est pas en train de se battre, c'est la fête. C'est ça qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'énergie qui passe entre eux. L'énergie que je sens chez eux me fascine complètement. C'est une énergie que je ne soupçonnais absolument pas avant d'y aller, qui chaque fois me souffle complètement. et beaucoup d'amour. Ils ont par exemple, les gangs ont les mariages outlaws, ce qu'ils appellent le mariage hors la loi. Alors on se marie hors la loi, on fait une cérémonie qui ressemble un peu à une cérémonie de l'église. Il y en a un qui joue le rôle du prêtre. Dans la main, il a une Bible. Dans la Bible, il y a écrit les règles du gang. Il y a les témoins, il y a les anneaux. Il y a le mariage, il y a toute la cérémonie du mariage. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Ils sont sapés, superbes. Ils portent leur jaquette avec les insignes du gang. C'est très conventionnel. Mais à la fin, ça n'est plus conventionnel parce qu'on arrose les mariés de bière et on cherche de la marijuana et on reste défoncé pour le reste de la soirée. Et ce qu'ils appellent la lune de miel, c'est ils retapent un appartement dans un immeuble abandonné, qu'ils repeignent, ils trouvent des meubles, ils sont enfermés là pendant 3 jours et 3 nuits à passer leur lune de miel. Pour eux, c'est le voyage de la lune de miel. Et ils mélangent leur sang. À la fin de la cérémonie, ils coupent le poignet, ils mélangent le sang comme le font les Indiens dans les tribus. Autrefois, ou dans les autres gangs, la fille doit baiser avec tous les membres masculins du gang, les uns après les autres, c'est-à-dire qu'elle doit faire l'amour avec 13 personnes avant de se donner à son mari. Mais maintenant, cette coutume est en train de passer vraiment. Et ça, quand je suis arrivée il y a 4 ans et demi, 5 ans, c'était encore... les Savage Nomades se mariaient comme ça, mais là, les Roman Kings, les Roman Queens ne se marient plus comme ça. Les femmes ont lutté, le féminisme est arrivé jusque dans les gangs féminins, les gangs de femmes.
So they feel that they could talk their problems out with a woman because she just is a woman just like her. Mm-hmm. And they get along beautiful because she understands that she's a woman and she went through it before. And that's how really they get together because, you know, they understand each other. They have she could go and talk to her because she knows, you know, that this girl won't turn around, turn her down or turn away from her or goof on her.
Vicky, 16 ans, présidente des Roman Queens, un gang de filles.
Their father, some girls turn gay because a lot of guys rape them or a lot of guys use them and hurt them. So they fall in love and every time they fall in love, the guy hurts her and...
Les filles deviennent lesbiennes parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'elles se sont fait violer. Les autres disent qu'elles ont flippé à cause de trop de mecs. Alors elles pensent qu'elles peuvent parler de leurs problèmes avec une femme, justement parce que c'est une femme, comme elles. C'est vraiment la raison pour laquelle elles se mettent ensemble, parce qu'elles se comprennent. Et elles savent qu'une fille ne leur fera pas de mal ou ne la quittera pas, ou ne se foutra pas de ce qu'elle dit. Il y a des filles qui deviennent lesbiennes parce qu'elles se sont fait violer par leur père. D'autres parce qu'il y a des types qui les ont violées ou qui ont abusé d'elles et leur ont fait mal. Ou d'autres tombent amoureuses et à chaque fois le mec leur fait mal et laisse tomber. C'est pour ça qu'elles vont vers une fille. Parce qu'elles savent que la fille ne va pas se tirer. Il y en a qui restent ensemble longtemps. 4 ans, je crois. Je crois que deux filles peuvent rester ensemble plus longtemps qu'un homme et une femme. Je connais des gouines qui sont ensemble depuis 10, 15 ans et qui ne sont pas fatiguées l'une de l'autre. Je pense que c'est parce qu'elles se comprennent. Quand elles ont un problème, elles peuvent s'en parler, tu vois, parce que ce sont des femmes. Les hommes aussi. Je suppose que les hommes ont les mêmes problèmes. Ils ont été blessés par trop de femmes. Les femmes s'accrochent à eux pour ce qu'ils ont. Ou bien l'homme tombe amoureux d'une femme et la femme se tire avec un autre. Des trucs dans ce genre. Alors avec un autre homme, ils peuvent en parler parce que peut-être que l'autre aura eu les mêmes emmerdes. Moi, je suis devenue lesbienne quand j'étais en tôle. Je suis devenue lesbienne parce que j'avais pas de mec vers qui me tourner. Alors, un jour, j'ai rencontré cette fille. J'étais complètement à zéro. Et elle est venue me parler. Je lui ai raconté tous mes problèmes. Elle m'a dit comment faire pour essayer de m'en sortir. Et elle m'a raconté les siens. J'imagine que j'avais trouvé une épaule sur laquelle m'appuyer. C'est pour ça que je suis devenue lesbienne. Et non pas parce que les mecs m'avaient fait du mal. Parce que dès que je suis sortie, je suis tombée sur un type. Je ne suis pas restée avec cette fille alors qu'elle était sortie aussi. Je pense que c'était parce que j'étais seule à ce moment-là, sans homme vers qui aller, alors je suis allée vers une femme. Beaucoup de filles sont comme ça quand elles sont en prison. Il n'y a pas d'hommes, alors si elles savent qu'elles en ont pour un bon bout de temps, c'est la même chose pour un mec. Quand ils savent qu'ils en ont pour un moment et que tout ce qu'ils vont voir, c'est des mecs, ils se disent, qu'est-ce qu'il y en a à foutre? Tu vas être là pour un moment, alors autant prendre son pied.
Tu m'as raconté que ta sœur s'était fait violer dans votre immeuble. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, elle partait pour l'école, mais elle avait oublié son cartable. Elle est remontée et il y avait un type avec elle dans l'ascenseur. Ils étaient amis, alors ils bavardaient ensemble. Quand ils sont arrivés à son étage à lui, il l'a poussée dehors et il l'a violée sur place. Elle est restée dans sa chambre après ça. Elle ne voulait parler à personne. Elle n'a pas voulu en parler jusqu'à bien longtemps après. Elle me l'a raconté, je l'ai dit à ma mère, et puis ce jour-là, le mec habite toujours dans l'immeuble. Ma sœur, elle s'en souvient toujours. Maintenant, elle vit avec son mari, et quand elle a des rapports sexuels avec lui, tu vois, elle y pense, et ça la fout en l'air. Mais au moins, elle lui a dit ce qui lui était arrivé, et lui ne lui en veut pas. Il comprend ce qui se passe. Parce qu'il y a des types qui, tôt ou tard, deviennent durs avec toi quand ce genre de choses t'arrivent. Mais lui, il prend soin d'elle. Il sait à travers quoi elle est passée. Maintenant, ils vont bien. Les viols n'ont plus lieu ici. Ça arrive quelques blocs plus bas, à Fox Street.
You know, he don't blame her. He's scared or he knows what's happening. Some guys, you know, later for that, forget about it and they rough with you. At least he takes care of her. He knows what happened. You know, he knows what she went through. Mm-hmm. And now they're all right, you know. That's the only break that I heard in the building. The rest of the race ain't around here. It's probably, you know, a few blocks down.
C'est d'abord trouver de quoi manger, et puis de quoi manger avec les copains. Alors on vole, tous les jours on vit de vol. On vit de vol. Ils n'ont pas d'argent, ils ont de l'argent avec les choses qu'ils volent et qu'ils revendent. Ce qui me frappe toujours dans les South Bronx quand je me promène, c'est qu'il y a toujours des gens qui vendent des vêtements, des radios, des tourne-disques, des... Je ne sais pas, tout ce qu'ils peuvent attraper, ils le revendent pour 10$, 15$, des chaînes stéréo, des choses comme ça qui volent. Ils passent leur temps à voler. Ils vivent de ça. Il y en a quelques-uns qui sont au welfare. Le welfare, c'est l'argent qu'on donne aux pauvres mensuellement, c'est-à-dire un minimum pour ne pas crever, tu vois. Le welfare, il y a des milliers de gens qui sont au welfare depuis plusieurs générations aux États-Unis. Ils ne savent pas ce que c'est que de travailler, il y a tellement de chômage. C'est les gens qui habitent ce quartier. Moi, j'ai essayé d'aider certains gosses à trouver du travail. On ne peut pas trouver de travail, il y a un chômage... 90% de la jeunesse noire est portoricaine à New York en ce moment. Donc il n'y a pas de travail, donc il faut exister, alors on vole.
Les grandes étapes de la vie d'un Roman King, c'est quoi?
La vie d'un Roman King, l'école, elle n'a rien à voir avec ce dont l'enfant a besoin dans ce quartier-là, alors il quitte l'école très jeune. L'école, elle ressemble à une prison, c'est terrifiant, il y a deux flics à chaque étage avec des talkie-walkie. Les gosses n'écoutent même pas les professeurs. Qui souvent, je me suis promenée dans des... Enfin, j'ai été à l'école régulièrement quand j'étais surtout à Harlem, avec des enfants. Même à Harlem, c'est comme ça, d'ailleurs. Alors, les classes sont vides et tous les élèves sont dans les couloirs à danser les derniers pas, parce qu'ils dansent toujours. Et il y a des pas qui sont lancés, qui changent toutes les semaines. Ils ont des pas de danse absolument incroyables, qui dansent en groupe. Alors, les couloirs sont pleins de gosses. Les professeurs essayent de les faire entrer, mais maintenant, ils ont abandonné la partie. Les professeurs ont des grands bâtons pour se défendre. La semaine dernière, on disait qu'en 6 semaines, il y avait eu 132 professeurs dans les quartiers pauvres attaqués par les élèves. Alors, les professeurs, ils arrivent et ils se planquent dans leur classe, tu vois. Ils ont vraiment peur, tous les professeurs.
Et beaucoup ont connu la prison de ceux que tu as rencontrés ?
Tous, sans exception. Ils vont, ils viennent en prison tout le temps. Les maisons de correction, ils commencent à la connaître à 9 ans, 10 ans. Même peut-être avant, 8 ans, je sais pas. Ça fait partie de leur vie. Et puis en même temps, moi je suis toujours très étonnée quand ils parlent de la prison, parce qu'ils disent on va upstate. Alors je leur demandais ce que c'était qu'upstate. Pour moi, upstate, c'est la campagne. Pour eux, c'est la prison à la campagne. C'est la seule fois où ils ont peut-être la chance de sortir de leur quartier, de leur bloc. C'est des gens qui ne voient jamais autre chose que le quartier où ils habitent. Au fond, ça ne les ennuie pas d'aller en prison pendant l'hiver. Au moins, ils ont de quoi manger, de quoi dormir, des couvertures. Comme me disait le garçon qui m'a accompagné hier faire les photos, il me disait « Sometime I miss the prison. » Quelquefois, j'ai envie d'être en prison. Et en fait, il m'expliquait que là, on mange, on dort, on est avec les copains. On n'a pas besoin de se battre tous les jours pour manger.
Parce qu'ils parlent de Manhattan, des gens qui y vivent.
Ils disent, comme des hordes d'oiseaux sauvages, ils disent on devrait tous descendre à Manhattan. Et quand ils disent ça, on devrait aller voler à Manhattan. Quand il y a eu le jour du blackout, qui était assez terrifiant, blackout, c'est où l'électricité s'est complètement arrêtée pendant 2 jours, ils ont bougé dans des quartiers un peu plus pauvres pour aller voler. Et les gens, c'était... J'y ai été faire des photos, c'était absolument terrifiant de voir les hordes de gens qui se jetaient sur tout ce dont ils avaient besoin. C'était terrifiant.
Et pourquoi ils vont plutôt dans les quartiers pauvres? On imaginerait qu'ils profitent de ce moment-là pour aller...
Ils ne pensent pas sortir. Tu sais, c'est psychologique. Ils ne sortent pas, on ne pense pas à sortir. Ils sont là et sortir du ghetto, il m'a fallu 7 ans pour comprendre ce que ça voulait dire. Sortir du ghetto, c'est sortir du ghetto mentalement. Penser qu'il y a une chance d'en sortir, tu vois. Ça, c'est très, très rare. Il y en a quelques-uns des gosses qui font des études. Mais enfin, quelques-uns, je te parle de 2. Mais sans ça, bon, on ne sort pas du ghetto. C'est très, très rare, les exceptions. Ils y pensent, oh, quand ils parlent de l'homme blanc, c'est dans leur tête celui qui possède. Alors, on devrait aller attaquer l'homme blanc pour qu'il nous donne un peu ce qu'il a et qu'il partage avec nous. Mais enfin, c'est plutôt à l'état de rêve pour le moment.
Ils ne sont pas utilisés par les trafiquants, par exemple ?
Les trafiquants de l'héroïne, ah oui, surtout depuis que la loi 75 est passée, la loi de l'héroïne, où les enfants qui sont pris avec de l'héroïne n'ont pas autant d'années, parce que ici, je crois qu'on a la prison à vie pour l'héroïne quand on est adulte, ou pour la cocaïne. Mais quand on est enfant, bon, on a les années jusqu'à 18 ans, c'est-à-dire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors les trafiquants d'héroïne se servent des enfants, je ne sais pas, je connais une petite fille qui vend de l'héroïne, elle n'a même pas de poitrine, elle est toute plate. L'autre jour, il y avait un gosse qui lui donnait l'héroïne à aller distribuer aux drogués. Ils étaient étonnés parce qu'elle était encore toute plate, tu vois, une petite fille, une enfant. Ils font leur argent de poche comme ça. C'est une façon de... On vend les joints, d'ailleurs tu as dû te promener à New York où on vend des joints partout, et puis surtout l'héroïne. C'est les enfants qui sont utilisés pour distribuer l'héroïne, par les gros trafiquants.
Est-ce que les gosses se droguent eux-mêmes ?
Dans les gangs, généralement, non, non. Ils fument beaucoup de marijuana. Quand ils trouvent des pilules, ce qu'ils appellent des up et des down, ils en prennent. Ou de l'acide, ils en prennent. Mais c'est difficile à trouver, ils fument. Ils fument de la marijuana, mais ils ne touchent pas l'héroïne. Et ils ne font pas de trafic de drogue à l'intérieur des gangs. Mais à l'extérieur des gangs, il y a des gosses qui ne font pas partie des gangs. Et tu trouves des familles entières de gens à l'héroïne. La mère, le père, les gosses, tout le monde. Et on loue la seringue dans les allées, les couloirs sombres, tu vois des milliers de gens qui se piquent à l'héroïne. C'est ça le ravage. Je crois que habit, ce qu'ils appellent le habit, ce qu'il faut pour la journée, ça va entre 50 et 100 dollars. Donc on vole pour avoir 50 ou 100 dollars.
Et en dehors de ce trafic, est-ce qu'ils sont utilisés autrement?
Je pense au feu, tu vois, quand ils mettent pas le feu. Parce qu'ils sont très suicidaires, tous ces gens-là. Enfin, je veux dire, c'est terrifiant. C'est un suicide collectif, tu vois. Tu trouves des gens qui encore appartiennent des immeubles et qui donnent de l'argent aux gosses pour brûler la maison, pour toucher l'assurance. Ça, j'en ai entendu parler plusieurs fois. Tu peux faire descendre quelqu'un dans les Bronx pour 20 dollars aussi. Tu peux aussi acheter un 32 pistolet pour $20, un 45 pour $50. Tout le monde a des flingues dans les South Bronx, c'est assez terrifiant.
Harlem enfin, banlieue dans la ville, ghetto au cœur du Manhattan, les marches dans le centre. Vu depuis Morningside Drive, les toits noirs de la ville noire, ville charbonneuse, Liverpool, coq en stock. Les rues sont animées, des jeunes jouent au football, les poubelles marquent les buts. Des voix, des cris, rues plus défoncées que jamais, voitures abandonnées, avenues verticales qui se perdent à l'horizon en montant vers Triborough Bridge, fenêtres murées. Impression d'ailleurs. Cette ville bouge, elle va exploser. Pourtant, calme apparent et nonchalance, tristesse profonde. Harlem, le soir. On longe le côté nord de Central Park sur la 110e rue, on est ailleurs. Splendide bâtisse, aux carreaux brisés, aux fenêtres murées de briques. Même impression sur Lenox Avenue, parallèle à la 5e. Des palaces à l'abandon. Puis très vite, le délabrement. Dérision, la 5e avenue qui, quelques blocs plus haut, le long du parc, a des allures si chics, c'est là où habitent Woody Allen et Jackie Onassis, la 5e s'enfonce uptown, dans la boue des ordures et des papiers gras du caniveau. Grand calme encore dans la rue. On s'attendait à quelques souks africains, Tamanrasset ou Conakry, un de ces bidonvilles de misère dont le cœur bat au rythme des percussions. Rien. Rue vide, déserte, quelques groupes agglutinés devant les néons des liquor shops, des junkies, aussi, échangeant leur dope. Beaucoup de gargotes ont des noms français à Harlem. Des noms du Paris Montmartre III de l'entre-deux-guerres. L'un d'eux, la famille. Au rez-de-chaussée, un bar, noir de monde. Que des noirs. Dans un coin, un orgue, sur lequel un type fait des gammes. Quelques regards en coin, froids, lointains. Le patron se précipite et vous entraîne au premier étage. Là, on sert une cuisine sudiste, jambon braisé aux pommes, sauce poivrée sucrée. Rien à voir avec la junk food des burger shops. Retour à la rue. Quelques attardés se dépêchent de rentrer chez eux. Ils ne vous regardent pas, du moins en apparence. C'est l'heure où les gangs de jeunes noirs sortent et prennent possession de leur territoire. Changer de rue, passer vite, changer de trottoir, traverser. C'est la nuit du piéton stratège. Les hordes gardent une rue, un immeuble, un terrain de basket. Quelques drop-outs, titubes, promenades hallucinantes, c'est le black-out permanent, impression de mort. À la périphérie d'Harlem-la-Noire, qu'on dit zone interdite, vivent quelques petits blancs, petits vieux qui attendent leur heure et que la guérilla urbaine ne concerne pas, petits pauvres. Car ce qu'il y a de plus affolant dans cette ville qui de toute évidence croule de richesse et où les dollars volent au vent comme des papiers gras, c'est encore plus que la pauvreté morale, la détresse physique et matérielle de certaines zones et de ceux qui les peuplent. À n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on rencontre de ces visages misérables, tels ce middle class wasp, costume trois pièces élimé, cravate défaite, visage blême et bourré de tics. Dans le métro entre les stations, l'Amérique blanche, ratatinée, essaye de dormir et de retrouver des forces.
New York, New York, the big apple. New York, New York, the big apple. New York, New York, the big apple. 16 million feet, nationals,
the last poets.
Floor shine, stepping on each other, rejoicing over the death of one nigger toe. Cold, callous feet trotting up and down synthetic avenues, streets and gardens. Gardens that grow shit. Gardens where putty-faced beings sit emotionlessly admiring bastard flowers. New York, 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 New York
A prerequisite to America, a disguised sin, where some brother from that closed southern shit comes to some open northern shit for a vacation. For an opportunity. An opportunity that knocks up sisters and knocks them in the head. For an opportunity that takes him home with dope in the arm and Clairol on the brain. New York, New York.
Right to the core.
New York, New York. New sameness, new food, same shit. New car, same gas without platformate. New love, same neurosis. New installation, same hoes. New hairdos, same minds. New style, same influence. New York, New York, the Big Apple. Where jive madam farmers are running around, shaking hands with all the grassroots people, never getting choked by the grass. New York, New York. Where Queen Liberty, tin shit is standing in the middle of pea green water, telling her brother he's liberated.
Le vent souffle fort. Dans le bus, un cow-boy défoncé balbutie trois mots au chauffeur qui répond « I'm not sure I got that. Was it nice or not ?»« Je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Était-ce gentil ou méchant ?»« Gentil, » répond le cow-boy. « Ah bon, je préfère ça, » répond l'autre. « J'aime qu'on me dise des choses gentilles et je déteste qu'on me dise des choses mauvaises. » Alors, on s'est compris. Le silence s'installe à nouveau.
La ville, on ne sait pas comment la définir. Alors, on ne sait pas, c'est peut-être ça qui fait mal, justement. C'est que on n'arrive pas à localiser, à comprendre ce qui se passe exactement.
Apprendre à vivre seul, à déchiffrer les codes seul. Ne pas rater de descendre à la bonne station. La station suivante, c'est ailleurs, un cul-de-sac, d'où l'on reviendra sans doute, mais un peu plus effrayé. Ne pas avoir à demander son chemin. Apprendre à se sentir seul. La foule solitaire. Dans le métro, une publicité. The lady in 3B is dying, and only her mailbox can save her. La dame de l'appartement 3B est en train de mourir, et seule sa boîte aux lettres peut la sauver. Suite une annonce pour une société de surveillance fonctionnant en relation avec les services postaux. On peut prendre des assurances contre les effets ultimes de la solitude. Mais la solitude et l'angoisse n'intéressent en définitive qu'en ce qu'elles sont monnayables. Titre d'une pièce à succès sur Broadway, The Colored Girl Who Has Considered Suicide. La fille noire qui a pensé à se suicider. À New York, c'est bon d'avoir quelqu'un à retrouver et à aimer le soir.
Dans ma chambre, toujours les mêmes tonnerres venaient fracasser l'écho. Par trombe, les foudres du métro d'abord qui semblaient s'élancer vers nous de bien loin. À chaque passage, emportant tous ces aqueducs pour casser la ville avec. Et puis, entre-temps, des appels incohérents de mécanique de tout en bas qui montaient de la rue. Et encore cette malrumeur de la foule en remous, hésitante, fastidieuse, toujours, toujours en train de repartir. Et puis d'hésiter encore et de revenir. La grande marmelade des âmes dans la ville. D'où j'étais là-haut, on pouvait bien crier sur eux tout ce qu'on voulait. J'ai essayé. Ils me dégoûtaient tous. J'avais pas le couleur de leur dire pendant le jour, quand j'étais en face d'eux. Mais d'où j'étais, je ne risquais rien. Je leur ai crié « au secours !» Rien que pour voir si ça leur ferait quelque chose. Rien que ça leur faisait. Ils poussaient la vie et la nuit, et le jour devant eux, les hommes. Elles leur cachent toute la vie aux hommes. Dans le bruit d'eux-mêmes, ils n'entendent rien. Ils s'en foutent. Et plus la ville est grande, et plus elle est haute, et plus elles s'en foutent. Je vous le dis, moi, j'ai essayé, c'est pas la peine. Extrait du Voyage au bout de la nuit de Céline, lu par Connie Kaiserman.
La solitude, oui, mais il existe une formidable complicité dans les exhibitionnismes. Chacun, s'il le peut, sourit au spectacle de l'autre. Les gens ne se regardent pas, c'est vrai, mais ils se voient. Et quand ils se sentent en sécurité pour le faire, ils rient ensemble de la farce improvisée, du spectacle impromptu. New York est une ville happening. 5e avenue, dans une vitrine, un mime arrête les passants. Chacun participe, même de façon statique, au spectaculaire et à l'esthétique de la folie urbaine. Même cadavérisé, les corps dans le métro adhèrent au décor. Il y a là une solidarité totale. Même spectacle dans la rue, pour tous, même métro déglingué, même peur, même rythme, mêmes incidents. New York est peut-être la première société socialiste du monde. Société douloureuse, mais fortement intégrée. Il est plus difficile de quitter la ville que de s'y adapter. La peur, la solitude, l'angoisse, la folie sont les réponses balbutiantes du New-Yorkais à la violence de la ville. Violence des codes d'abord, qui frappe dès que l'on arrive à New York. Les blancs ici, les noirs là. Walk, don't walk. Marchez, marchez pas. Pas sortir seul la nuit quand on est une femme. Ne pas prendre certaines rues, ni le métro après une certaine heure le soir. Marcher d'un air décontracté, mais décidé. Marcher, marcher, ne pas s'arrêter, c'est incongru. C'est s'offrir en pâture aux possibles agresseurs, c'est jouer la victime. Ce sont les règles qui paraissent intenables, car elles n'autorisent aucune déviance. Violence des codes. Harlem, vous dit-on, on peut y aller le jour, à condition de ne pas aller dans la 125e. Vous n'avez rien à faire dans la rue commerçante, c'est suspect. À condition aussi de dire manifestement en marchant que vous n'avez rien à demander, ni drogue, ni femme. Un jeu d'enfant, en somme, quand on est un peu comédien. D'autres rigolent, disent que Harlem est sans danger. Mais ceux-là n'y vont pas très souvent. D'autres encore pensent qu'il faut être nuts et provocateur pour y mettre les pieds. Les codes s'en mêlent. En fait, si la violence est ainsi codifiée, c'est qu'elle n'est pas tout à fait sauvage. C'est qu'elle est sous contrôle. De même que la délinquance est contrôlée. Elle s'érige en laboratoire pour les sociologues, en observatoire pour les polices. Elle permet aux clercs de définir les normes, comme au Moyen-Âge. Mais la violence existe, et cela aussi en dehors des codes sociétaux, dans les gestes de la rue. Depuis les coups qu'échangent les étudiants sur le terrain de football, sur le campus, jusqu'à ces milliers d'esquives et d'esquisses de coups qui parfois portent jusqu'au bout et portent alors le nom de meurtre. La violence se vend bien, mais il lui faut être sensationnel pour recevoir la consécration et les hommages de la une des journaux. Bataille rangée à Harlem ce week-end, annonce Amsterdam News. Ou bien, règlement de compte au pistolet sur la ligne numéro 2, selon le Daily News. Il s'agissait d'une fusillade entre deux portoricains dans le métro à la hauteur de la 72e rue. 3 morts. Le lendemain, sur la ligne numéro 2, les gens lisent le récit de l'événement, impassible, comme s'il était advenu ailleurs, en un lieu qui ne les concernait pas. Mais le meurtre ordinaire, habituel, quotidien, est insignifiant. À peine une brève dans les colonnes, entre deux petites annonces. Cimarrones, Fight to the End.
You're trying to keep it rigid on top by suppressing me and my lot, yeah. When I move up to get my share, you wanna treat me as if I'm not there. You wanna make me feel insignificant, but I'm telling you I'm gonna stay adamant. Do you think I'm gonna hang around, let you hammer me to the ground? No, 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 no. I'll have you know, stagnation is your situation. Decay's in your foundation. Yeah, 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 yeah. If you think I'm gonna while I see you trying to dig out my eyes, hypocrisy is the theme from which you gain your pleasure, you even build your dream. I will have to fight you to the end. I will have to fight. You build your sea way up so high at the expense of I and I kind. You're trying to keep it rigid on top by suppressing me
and my lad, do your thing.
I'm gonna hang around, let you hammer me to the ground. No, 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 no.
Broadway le soir, un peu avant minuit, vent et pluie. De l'autre côté de la rue, un couple va traverser, un noir, une blanche. L'homme fait de grands gestes. Brusquement, il saisit le bras de la femme et la jette à terre. Personne ne bouge, chacun reste aveugle à la scène. Moi aussi, c'est très dur. La femme reste assise dans une flaque sous la pluie, tandis que l'homme l'insulte. La femme est doublement assaillie, sujette au vol, et sujette au viol. Une autre annonce dans le métro. Raptists don't discriminate. Les violeurs ne font pas les différences. Ils ne font pas de discrimination. Les femmes, elles, si. Ou alors, inévitablement, il leur arrive malheur. C'est la morale de Looking for Mr. Goodbar, un film présenté un peu partout à New York. Parce qu'elle était nymphomane et sans exclusive, la belle Diane Keaton finira sous les coups de couteau d'un homosexuel. Tuerie sanglante pour public de femmes. Les gens rient jaunes en sortant de la salle. Une fille, now let's get ready to meet Goodbar. Frayeur mêlée de jubilation, on ne sait ce qui l'emporte de la peur et du plaisir que la peur provoque. Le meurtre est lié au désir. S'interdire le plaisir, c'est aussi une des stratégies pour échapper à l'agression mortelle. Dans un autre film, vu dans une des cinémathèques de Soho, une go-go girl qui passe sa vie à Harlem entre son lit du Paradise Hotel et les planches du Diamond Palace, finit de la même manière, traquée par un de ses amants qui la tue. I killed you, babe, 'cause I loved you. Ultime victime, l'enfant. Venu du Bronx, tout proche, ou plus loin échappé d'un Minnesota misérable, des fillettes de 12 ans vendent leur petit corps pour le compte de proxénètes ou de réalisateurs de porno. À tout hasard, une publicité annonce dans le métro It shouldn't hurt to be a child. Non, bien sûr, ça ne devrait pas faire mal d'être un enfant, mais qui s'en soucie? Le Daily News poursuit sa comptabilité macabre. Deux chauffeurs de taxi assassinés pendant le week-end. Qui cela préoccupe-t-il? Simple information, ça n'arrive qu'aux autres, ou stimulus supplémentaire pour préparer les réflexes. À New York, beaucoup de femmes gardent en permanence $20 dans leur entrée, au cas où. À New York aussi, de plus en plus d'hommes descendent dans la rue le soir, armés, pour rendre justice eux-mêmes. Ils ne s'appellent pas tous Joe, et ils ne sont pas tous taxi drivers. Car la défense s'organise, tout aussi arbitraire, brutale et aveugle que la violence ambiante dont elle accouche. Kill pushers. « Tuer les trafiquants », lit-on sur le mur d'une école, dans Amsterdam Avenue. Dans le village, la mafia règne en maître. Les noirs, les dealers d'héroïne, ne s'aventurent guère sur ce territoire strictement balisé. Munis de barres de fer, les jeunes Italo-Américains ont organisé des ratonnades dans Washington Square, il y a un an, pour le leur rappeler. King Street, McDonald Street, sont des rues propres, clean. Les loups ne s'y égarent jamais. Les petits mafiosi défendent leur fief. Barons félons, vassaux renégats du capitalisme puritain, ils en respectent la loi jusqu'au paroxysme, la loi de la jungle. Ailleurs, c'est la chasse aux folles, le ratissage des PD. Las de voir New York devenir le refuge des homosexuels, que la législation des autres États menace de plus en plus, la justice lance des coups de semonce, elle montre les dents. « Justices OK for a gay », titre le New York Post. et les pompiers, héros de la ville, défenseurs de la virginité du rêve américain, descendent dans la rue pour cogner et casser les manifestations gays. Trop de groupuscules et trop de marge. Non pas l'indifférence, mais l'intolérance. Dans l'avion, le train de l'air, ma voisine m'avait averti. Too many blacks. I still cannot figure what's worse between niggers and Arabs. Mais c'est vrai qu'elle venait de Virginie et qu'elle était bourrée de dramamine. Le métro toujours. Dans le train D, un noir éternue. Assis à côté de lui, un portoricain, ivre, hurle. Hey brother, would you stop spitting your black germs upon me? Et le train continue sa course bruyante dans le staccato des bougies. Moyen-Âge, demain, cathédrale.
C'était Les Nuits Magnétiques, présentées cette semaine par Pascal Dupont et Bruno Sourcy. Collaboration technique, Roland Dandalex, Claude Rossi.
C'était une émission diffusée la première fois le 3 janvier 1978.